Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo offre des primes et des remerciements aux athlètes paralympiques de Paris 2024. Vice-président indonésien note que la contribution des entreprises de la charia au PIB atteint 47%. Consulat général d'Indonésie à Perth renvoie 323 céramiques texing illégales en Australie. Ministre PDTT autorise les exportations d'orchidées de Malang vers le marché américain. Indonésie et la Corée coopèrent pour renforcer la protection du droit d'auteur. S'élevant à la 75e position, le ministre coordonnateur Erlangga est optimiste quant au fait que l'Indonésie atteindra la cible des ODD en 2030. Indonésie et la Suisse organisent une formation sur les mini-réseaux pour stimuler le développement de l'EBT. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président indonésien Joko Widodo a remis des primes et des remerciements aux athlètes paralympiques indonésiens qui ont participé aux Jeux paralympiques de Paris 2024. La cérémonie de remerciement a eu lieu sur la pelouse du Palais Merdeka à Jakarta mercredi 11 septembre. Dans son discours, le président a exprimé ses félicitations et sa fierté pour les efforts des athlètes qui ont réussi à réaliser de brillantes réalisations et à donner de la fierté à la nation indonésienne. Le président Joko Widodo a dit:
Saya sangat gembira dan bangga karena dalam ajang tersebut kontingen merah putih berhasil mencetak sejarah baru, berhasil membawa.
Je suis très heureux et fier car dans cet événement le contingent rouge et blanc a réussi à entrer dans une nouvelle histoire, remportant 14 médailles, une médaille d'or, 8 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Et en guise de remerciement pour cette fière réussite, le gouvernement a préparé une prime de 6 milliards de roupies pour les médaillés d'or, de 2 milliards 750 millions de roupies pour les médaillés d'argent et de 1 650 millions de roupies pour les médailles de bronze. Et les athlètes qui n'ont pas réussi à obtenir des médailles recevront également une appréciation de 250 millions de roupies, y compris les entraîneurs et entraîneurs adjoints qui seront également récompensés pour leur dévouement et leur travail acharné pour produire des champions. Le président a souligné que ce succès n'était pas un résultat instantané, mais le fruit d'un long processus, à partir de l'identification précoce des talents, d'une formation durable et à long terme, ainsi que du travail acharné des coachs, des équipes de soutien et de diverses autres parties. Le président espère que cette réalisation pourra susciter l'enthousiasme et l'optimisme des athlètes paralympiques et les motiver à être plus assidus à l'entraînement. Parallèlement, dans son rapport, le ministre des Sports de la République d'Indonésie, Dito Aryo Tejo, a déclaré que le contingent indonésien d'athlètes paralympiques de Paris 2024 avait réussi à remporter une médaille d'or, 8 d'argent et 5 de bronze. Selon Dito, il s'agit de la meilleure réalisation de toute la participation de l'Indonésie aux Jeux paralympiques, dépassant l'objectif initial fixé par le gouvernement. La contribution au produit intérieur brut PIB national atteindra 47% en décembre 2023. Le vice-président indonésien Maruf Amin a déclaré cela lors d'un discours lors d'un séminaire national à l'Université Diponegoro Semarang, Java Central, mercredi. Le vice-président a estimé que l'économie et la finance de la charia au cours des 5 dernières années s'étaient développées rapidement, y compris la part du marché financier de la charia qui atteint désormais 11,04% du total des actifs financiers nationaux. Dans le secteur des fonds sociaux de la charia, le vice-président a également souligné l'énorme potentiel du cash wakaf qui s'est accumulé à 2,56 billions de roupies. En fait, la zakat, l'infak, l'aumône et l'autre fonds sociaux et religieux ont atteint 32 300 milliards de roupies. Outre le niveau national, le vice-président a déclaré que le développement de l'économie et de la finance de la charia au niveau mondial était également très encourageant. Maruf Amin a déclaré que l'Indonésie avait réussi à atteindre la 3e place dans l'indicateur de l'économie islamique mondiale à l'indicateur de développement de la finance islamique en 2023. Au milieu de l'incertitude économique mondiale, l'économie de la finance nationale de la charia sont également considérés comme capables de continuer, développer et soutenir la résilience économique nationale. Consul général de la République d'Indonésie à Perth, Australie, Listiana Operananta, accompagné de consul pour l'information et la culture sociale du consulat général d'Indonésie à Perth, Antonius Prawira Yudianto, a assisté à la dernière étape du processus de rapatriement des 332 pièces de céramique Texin trouvées sur un site d'enchères australiens illégales. Selon Antara, mercredi à Jakarta, un grand nombre de céramique Texin ont été trouvées en Australie en 2019 via un site d'enchères illégales. Le ministre australien de la Culture, Tony Burke, ensuite, symboliquement, remis les céramiques Texin à l'ambassadeur indonésien en Australie, Siswo Pramono, le 17 août 2022, pour que le traitement soit renvoyé en Indonésie. Après un long processus, toutes les céramiques ont été restituées en Indonésie le 8 septembre 2024. L'ensemble des processus de rapatriement a été Le résultat d'une étroite coordination entre le consulat général d'Indonésie à Perth et toutes les parties, en particulier l'équipe du musée et du patrimoine culturel du ministère indonésien de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie. Le consulat général d'Indonésie à Perth a souligné que le consulat et toutes les parties concernées continueront à collaborer pour sauvegarder les biens culturels de l'Indonésie. Ministre des Villages, du Développement des Régions, des Favorisés et de la Transmigration de la République d'Indonésie, PDTTRI, Abdul Halim Iskandar a autorisé l'exportation d'orchidées produites par l'entreprise commune du village de Singosari, région de Malang, Java orientale, vers le marché d'exportation des États-Unis. Selon un Tara, Abdul Halim Iskandar de la région de Malang a déclaré mercredi que les exportations d'orchidées vers les États-Unis étaient effectuées de manière indépendante, ce qui signifie qu'elles ne passaient pas par l'intermédiaire de Thiers. Les États-Unis constituent le deuxième marché pour les orchidées de Singosari Joint Village Hunt Enterprise après celle exportées vers Taïwan. Le ministre Abdul Halim a déclaré que l'expansion du marché des orchidées ne peut être séparée de la créativité des gens qui a finalement pu donner naissance à l'innovation. Le régent de Malang, Mohamed Sanusi, a déclaré que l'augmentation du marché d'exportation des fleurs d'orchidées pourrait apporter une valeur ajoutée à l'économie de la communauté pendant ce temps. Le directeur de Bumdesma Singosari Sudrikamto a expliqué que les orchidées exportées vers les États-Unis étaient de type dendrobium frisé, à savoir un type similaire qui avait déjà pénétré le marché de Taïwan. Le nombre d'orchidées exportées vers les États-Unis s'élève à 120 tiges d'une valeur nominale d'environ 120 millions de roupies. La Direction générale de la propriété intellectuelle, DGKI, ministère du droit et des droits de l'homme de la République d'Indonésie, et le Bureau du droit d'auteur, ministère de la culture, des sports et du tourisme, République de Corée, ont convenu de travailler ensemble pour renforcer la protection du droit d'auteur. Un rapport d'Antara mercredi 11 septembre a déclaré que les gouvernements indonésiens et sud-coréens avaient signé un protocole d'accord MSP sur la coopération dans le domaine de la protection du droit d'auteur à Séoul, en Corée du Sud. Mardi dernier, 10 septembre, la signature a été réalisée par le directeur général du Bureau du droit d'auteur de la République de Corée, Hyang Mi-jung, en présence de la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade d'Indonésie à Séoul, Zelda Wulan Kartika, représentant le directeur général de la propriété intellectuelle de la République d'Indonésie, Min Usihan. Zelda a expliqué que cette collaboration comprenait des efforts visant à accroître la capacité de traitement des violations des droits d'auteur numériques. En effet, les formats de violation du droit d'auteur sont de plus en plus complexes et se produisent fréquemment dans le cyberespace. On dit que l'Indonésie pourrait développer un système de cybersurveillance plus sophistiqué pour détecter et prendre des mesures contre les violations du droit d'auteur sur Internet. En dehors de cela, les deux pays peuvent également partager les meilleures pratiques en matière de traitement des cas de violation du droit d'auteur numérique, notamment l'utilisation de la technologie blockchain. Poursuivre la propriété des œuvres protégées par le droit d'auteur. Par ailleurs, Hyang Mi-jung a déclaré que les violations du droit d'auteur provoquées par la distribution illégale de contenus sont de plus en plus faciles à commettre et se produisent à l'échelle internationale. Pour cette raison, il estime que l'Indonésie et la Corée doivent établir une coopération globale. Le ministre indonésien de coordination des affaires économiques, Erlang Hartarto, est optimiste quant à la capacité de l'Indonésie à atteindre l'objectif des objectifs de développement durable ODD en 2030. Ceci étant donné que le classement des ODD de l'Indonésie est passé à la 75e position en 2023 contre la 102e position en 2019. Erlangga, lors de son discours à la 8e conférence internationale de troisième cycle de l'Université d'Erlangga, Jakarta, mercredi 11 septembre, a déclaré que jusqu'à 76% des indicateurs des ODD en Indonésie avaient été atteints. Les ODD contiennent 17 cibles ou objectifs et sont divisés en quatre piliers qui contiennent des objectifs et cibles mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, éliminer les inégalités et protéger l'environnement afin d'accélérer la réalisation des ODD. Erlangga a expliqué que le gouvernement continue de s'efforcer de créer une croissance économique plus forte, plus inclusive et respectueuse de l'environnement grâce à trois moteurs économiques, entre autres choses, en revitalisant les machines économiques conventionnelles, en développant de nouvelles machines économiques et en renforçant la machine économique de Pancasila, en renforçant la protection sociale pour protéger les communautés vulnérables. En outre, dans le cadre du pilier du développement social, le gouvernement a préparé un certain nombre de programmes de protection sociale, notamment une aide directe en espèces. Le gouvernement continue de s'efforcer de maintenir le pouvoir d'achat de toutes les classes de revenus, y compris la classe moyenne. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, ESDM de la République d'Indonésie collabore avec le gouvernement suisse par l'intermédiaire du secrétariat d'État à l'économie, SECO, pour organiser une formation sur la production d'électricité à petite échelle et les réseaux ou mini-réseaux pour 15 conférenciers dans le but d'accélérer le développement des nouvelles énergies renouvelables, EBT. Le chef du Centre de développement des ressources humaines pour l'électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et la conservation de l'énergie au ministère de l'Énergie et des ressources minérales, Susetio Edi Prabowo, dans sa déclaration à Jakarta mercredi 11 septembre, a déclaré que cette formation vise à accroître les compétences des enseignants dans la préparation de supports de cours liés aux mini-réseaux, notamment en termes de conception, de construction, d'installation, d'exploitation et de maintenance de centrales électriques basées sur les énergies renouvelables. Il a déclaré que la formation qui s'est déroulée du 2 au 13 septembre s'est concentrée sur les aspects techniques et pratiques liés à la conception, à l'exploitation et à la maintenance de mini-réseaux basés sur les énergies renouvelables, considérées comme une solution innovante pour accroître l'accès à l'énergie dans les zones reculées de l'Indonésie. Il a déclaré que pendant 2 semaines, 15 professeurs de cette école polytechnique d'État sélectionnés ont reçu une formation intensive, guidée par Thomas Gross, conférencier expert de l'ETH Zurich, et Valentina Camponovo de HYCON GmbH Suisse. Grâce à cette collaboration, les gouvernements indonésiens et suisses renforcent leur engagement à soutenir la transition vers les énergies renouvelables en Indonésie, en mettant l'accent principalement sur l'augmentation des compétences des ressources humaines de qualité et en conformité avec les demandes de l'industrie. Bonjour, Jeter, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Cerita kebongsoir, voici le cas diplomatique et en pour le titre, KRI Bibi Masuchi est présent à Shanghai en tant qu'ambassadeur de la culture et du tourisme de l'Indonésie. Le voilier école KRI Bibi Masuchi a accosté au quai numéro 10 de la base navale de Wusong à Shanghai en Chine pour commencer une mission de formation et agir en tant qu'ambassadeur de la culture et du tourisme indonésien en Chine. Le commandant du KRI Bima Suci, le capitaine de frégate Astaria Dwi Prakoso, lors de l'événement cocktail party sur le pont du KRI Bima Suci à Shanghai samedi 7 septembre, cité par Antara, expliquait que le KRI Bima Suci était présent en tant qu'ambassadrice culturelle et ambassadrice de tourisme pour l'Indonésie. La mission mène également des activités de diplomatie navale et d'État, notamment auprès de l'Armée populaire de libération APL. KRI Bima Suci était à Shanghai du 6 au 10 septembre 2024 dans le cadre d'une mission de bonne volonté et d'une formation pratique pour Kartika Jalakrida, KZK. Le personnel du navire comptait 193 personnes se composant de 78 cadets, de 17 membres du personnel de la marine indonésienne et de 98 membres d'équipage du navire, dont 10 femmes. Kartika Jalakrida est régulièrement réalisé chaque année par des cadets de la marine pour former la navigation à l'astronomie et au grand cercle. Lors du cocktail party, les cadets de troisième année de l'Académie navale ont donné divers spectacles tels que la danse gandrung de Banyuwangi, des collaborations de danse traditionnelle telles que le rampak gendang, la danse saman, la danse ramasinta et la danse de guerre. Des plats typiques indonésiens ont également été servis aux invités présents tels que des boulettes de viande, du riz frit et diverses boissons. Avant de terminer l'événement, les invités ont été invités à danser ensemble au son de la chanson Gemu Famire, ou communément connue sous le nom de Maumere et Pocho Pocho, afin qu'il y ait une interaction directe entre les cadets de la marine indonésienne et de la marine de l'APL. La durée totale de navigation du KRI Bima Suci pour les opérations de bonne volonté et de Kartika Jalakrida ou KZK et de 90 jours couvrant une distance de 10 715 000 makang ou NM, comprenant 57 jours de navigation et 33 jours d'accostage. Pendant cette période, le KRI Bima Suci devrait naviguer 16 jours dans les eaux indonésiennes et 74 jours à l'étranger. KRI Bima Suci devrait terminer sa mission et arriver à son siège sur Surabaya le 30 octobre 2024. C'est le retard, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire de Zouklouï qui va commencer avec l'événement du 12 septembre 1940, la découverte de pinceaux préhistoriques dans la grotte de Lascaux. Cette grotte est située à Montignac, France. Les pinceaux ont été découverts accidentellement par quatre adolescents. À l'intérieur de la grotte, on trouve 600 pinceaux animalières, divers symboles et 1500 gravures. Ces œuvres d'art sont estimées entre 15 000 à 17 000 ans, ce qui correspond à l'ère paléolithique. Henri Edward Prosper Breuil, en français, qui fut le premier archéologue à étudier cette précieuse relique préhistorique. La grotte est autrefois une destination touristique, mais elle a été fermée en 1963 pour préserver les peintures. Et les visiteurs peuvent aujourd'hui profiter de la réplique située à proximité du site d'origine. Passons maintenant à l'événement sur tremblement de terre à Bengkulu. Un tremblement de terre de magnitude 7,9 a frappé environ 105 km au large de Bengkulu le 12 septembre 2007. Ce tremblement de terre a déclenché des alertes au tsunami dans l'océan Indien et a été suivi de plusieurs fortes répliques. Un raz de marée d'un mètre a frappé au moins 300 maisons et bâtiments sur l'île de Pagai et l'île de Mentawai. Environ 21 morts ont été confirmés et des centaines ont été blessés. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la journée de la coopération Sud-Sud. L'UNOSSC, ou la coopération Sud-Sud des Nations Unies, a été initialement célébrée le 19 décembre. Cependant, elle a été déplacée au 12 septembre 2011. L'UNOSSC vise à contribuer à la prospérité nationale des pays en développement à travers les domaines politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et techniques. L'objectif de l'UNOSSC nous rappelle de reconnaître l'importance de la coopération Sud-Sud en aidant les pays à faible revenu à atteindre leurs objectifs de développement. C'est Rita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh ulang. Hanya suaramu yang jelas manggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Kali ini kan ku obati.
hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Duka yang terlahir oleh sikap dan semua tingkah lakuku, biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalanku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak oleh hasratku. Aku berdiri di tepian ruang hampa, izinkanlah.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, l'égalité pouvait surmonter les impacts du changement climatique, a affirmé le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance. Le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance considère l'importance de l'égalité des sexes pour surmonter les impacts du changement climatique. Cité par Antara, l'agent chargé d'intégration du genre dans les affaires sociales et culturelles au ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Ekonobi Arianti, a déclaré mardi que le changement climatique n'est pas neutre en matière de genre. Selon elle, le changement climatique et les catastrophes sont des problèmes sociaux dont les impacts sont ressentis différemment par les femmes et les hommes. Le changement climatique exacerbe les conditions d'inégalité existantes. Ceci est important car, selon Ekonobi Arianti, les femmes sont plus vulnérables aux impacts du changement climatique car elles sont souvent censées assumer des rôles traditionnels tels que s'occuper du ménage, s'occuper des enfants et gérer les ressources naturelles. Elle a ajouté que les femmes ont souvent un accès limité aux ressources, aux connaissances, à l'éducation et à un travail formel décent, ce qui rend difficile leur adaptation aux impacts du changement climatique. Les femmes ont également plus de mal à éviter les dangers des inondations, des tempêtes ou de la sécheresse. En outre, selon Ekonobi Arianti, les femmes vivant dans les zones pauvres seront plus vulnérables en raison du manque d'accès à des infrastructures solides, à des services de santé adéquats et à des ressources pour faire face au changement climatique. Selon elle, les politiques et actions liées au changement climatique doivent prendre en compte de manière adéquate les besoins et les vulnérabilités des femmes, ce qui entraîne des inégalités d'accès aux ressources et services nécessaires pour s'adapter au changement climatique. C'est pour cette raison que la stratégie d'intégration du genre dans le développement national met l'accent sur un certain nombre d'efforts, à savoir l'absence de discrimination entre les femmes et les hommes, l'égalité d'accès dans les différents domaines du développement, la participation active et le contrôle du développement et l'égalité dans les différents domaines du développement. C'est le retard, c'était mon résumé pour ce soir.
De Jakarta, Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
That you're the one. Got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done. But this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock. Then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go. They're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
No tears. Yes, I got this. Oh, shed no tears. I'll find my own.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Saya cerita, dans luang de la ville de Denpasar, à Bali, se trouve le village touristique de Kukur qui offre un paysage de vastes étendues de rizières. Ce village touristique combine la beauté naturelle, le patrimoine culturel et la vie traditionnelle balinaise authentique. Ce village est situé à environ 20 km de Denpasar et peut être atteint en une heure environ par transport terrestre. L'accès à ce village est assez bon avec une route goudronnée, ce qui facilite la visite pour tous ceux qui souhaitent le visiter. Le village touristique de Coco est entouré de rizières en terrasse vertes et fertiles. Les rizières en terrasse font partie du célèbre système d'irrigation sous bac. La vue sur les rizières est très belle et peut servir de l'arrière-fond pour prendre des photos. Dans ce village touristique, il existe des sentiers de randonnée et des pistes cyclables que vous pourrez parcourir à travers les rizières, les jardins et les zones rurales. Les activités de randonnée et de cyclisme offrent de belles vues et la possibilité d'interagir avec les résidents locaux. En plus de vous promener pour découvrir la beauté naturelle du village touristique de Coco, vous pouvez également apprendre à fabriquer des objets artisanaux tels que le bambou tressé, la sculpture sur le bois et le batik, apprendre à cuisiner des plats typiques balinais et apprendre les mouvements de base de la danse balinaise. Le village Coco propose également des programmes éducatifs sur l'agriculture biologique et les techniques agricoles traditionnelles. Vous pouvez apprendre à cultiver du riz, des légumes et d'autres cultures en utilisant des méthodes traditionnelles. Dans ce lieu touristique se trouve le temple Alaska Daton. Ce temple est l'un des centres d'activités religieuses du village. Ce temple organise souvent les cérémonies traditionnelles auxquelles les touristes peuvent assister afin que les touristes obtiennent des informations sur la spiritualité et la culture balinaise. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Bye.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Wakatobi Wave 2024. Le sud-est de Sulawesi possède quatre belles îles, connues comme des paradis sous-marins. Les quatre îles sont Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia et Binongko. Ces îles ont donné naissance au nom Wakatobi. Wakatobi est largement connu comme l'un des meilleurs spots de plongée et de snorkeling dans le monde. Cela a été prouvé par la diversité des récifs coralliens et des animaux marins qui existent. Au moins à Wakatobi, plus de 750 espèces et récifs coralliens et 942 espèces de poissons ont été recensées. Pour maintenir l'existence de Wakatobi en tant que l'une des principales destinations touristiques d'Indonésie, le gouvernement de la ville de Wakatobi organise à nouveau le Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2024 ou Wakatobi Wave du 10 au 14 septembre 2024 à Alun-Alun Merdeka, Wakatobi. L'événement culturel Wakatobi Wave est un résumé de quatre événements touristiques, à savoir Barata Kaledupa, Festival de Tomia et le Festival des Forgerons de l'île de Binongko, et aussi culmine à la vague de Wakatobi. Depuis 2018, ce festival est devenu un événement national. Le Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2024 ou Wakatobi Wave est un programme gouvernemental annuel visant à développer et promouvoir le tourisme à Wakatobi. Le Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2024 ou Wakatobi Wave se tiendra avec diverses activités. Il s'agit notamment des danses colossales, des expositions micro, petites et moyennes entreprises, des carnavals culturels, des actions de conservation de la nature, des attractions culturelles maritimes, des expositions de photos sous-marins, et le mouvement et aussi concours artistique culturel colossal danse. Toutes les activités de Wakatobi Wave sont enveloppées dans le thème Water Wonderful Wakatobi. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Things in life may seem hard, seem tiny, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do.
sun. Shake those worries gone. Don't you worry about nothing. It's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing. It's gonna be amazing. The ego you have, the emotions I left, don't let them get you.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec moi, Audrey. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Kelompok Tiga Suara intitulée Oya. Chers auditeurs, le groupe Tiga Suara K3S est composé de Bagus A.A. Dian Pramana Putra et de Didukun. Son premier album intitulé 17 setengah tahun sort en 1985 et c'est plutôt bien accueilli par le public. Un an plus tard, en 1986, sort le deuxième album intitulé Oya. Cet album présente la chanson phare du même titre, Oya. Ce qui fut un succès à l'époque, il n'est pas surprenant que cet album ait connu un succès sur le marché dépassant le succès du premier album. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui a des sentiments pour la personne qu'il aime, mais malheureusement, il est gêné d'exprimer ses sentiments. Bon, chers auditeurs, voici le groupe de Klompok Tigasuara va chanter une chanson intitulée Oya. Bonne écoute. Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.